Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h40, bonne fin de journée. On défait le monde effectivement dans RTL Soir. Cyprien Cini, Céline Andreau, oui. Laurent Tessier, la bande est réunie. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Autrement, le plein de découvertes jusqu'à 19h avec au menu Cyprien.
Ce soir, on défait le monde s'intéresse au nerf de la guerre d'une campagne électorale. L'argent, levée de fonds, dont vente de t-shirts, comment les candidats financent leur campagne, vous allez tout comprendre. Au menu également, reportage, Céline en immersion, chez ceux que l'on n'entend pas, qui ne militent pas et qui s'apprêtent à revoter Macron. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
Une certitude, des millions de francs de l'époque ont été déposés sur les comptes de cette campagne. Officiellement, les dons des militants et la vente de t-shirts.
Ah, quand Édouard Balladur vendait tellement de t-shirts que ça rapportait des millions pour financer sa campagne, parce qu'une campagne présidentielle, eh ben ça coûte cher, très cher. Alors avec l'équipe dont défait le monde, ben on s'est demandé où les candidats trouvaient l'argent.
Comment font-ils? Qui donne et quelles sont les règles à respecter?
Pour en savoir plus, on a appelé Benjamin Morel, il est maître de conférence à Paris 2. Et avant toute chose, pour avoir une idée, grosso modo, combien ça coûte une campagne présidentielle?
Une campagne moyenne, c'est entre 10 et 15 millions d'euros. Quand vous regardez un petit peu les campagnes qui sont prévues, on voit que les candidats de gauche, par exemple, tablent sur des campagnes entre 8 et 10 millions, parce que les appareils politiques sont aujourd'hui assez affaiblis.
Et il y a un plafond maximum autorisé, hein, c'est 16 millions pour le premier tour et 22 pour le second.
Comment ils trouvent l'argent, les candidats?
Alors pour faire simple, il y a trois moyens. Les dons, l'emprunt à la banque et ce qu'on appelle le trésor de guerre. Alors, on va quand même commencer par les dons.
Les partis de droite vont plutôt reposer sur des gros dons, des donateurs réguliers qui donnent à la fois aux partis et qui donnent également aux candidats, avec une sociologie électorale qui, évidemment, apparaît plus aisée. En règle générale, une grande partie des formations de gauche va reposer sur une multiplication des petits dons. Idem pour un certain nombre de partis comme le Rassemblement National. Vous pouvez donner pour un candidat 4 600 €. Ensuite, vous pouvez également faire un don de 7 500 € à des partis politiques. Alors, les entreprises peuvent pas donner, ce qui est par exemple pas le cas aux États-Unis. En revanche, en France, ces dons sont strictement interdits.
Donc une entreprise ou une association ne peut pas financer un candidat?
Bah non, c'est pour éviter les conflits d'intérêts en fait. Donc les dons, bah, ça suffit pas. Le candidat se tourne alors vers les banques ou vers son parti.
Dès lors que vous faites plus de 8% dans les enquêtes d'opinion, eh bien vous allez trouver une banque qui va accepter de vous prêter une somme relativement substantielle, sachant que vous avez le droit, si jamais vous faites plus de 5%, au premier tour, vous pouvez envisager un remboursement de 8 millions et si vous arrivez au second tour, jusqu'à 11 millions. Quand vous êtes une grande formation qui a un gros groupe parlementaire, vous avez déjà un trésor de guerre. C'est tout simplement ce que vous avez accumulé comme formation politique durant le quinquennat précédent et éventuellement durant des années et des années d'élections remportées. Ça vous permet d'avoir des élus. Ces élus, ils vont reverser en règle générale une partie plus ou moins importante de leur indemnité. Sur La République En Marche, on parle de plusieurs millions d'euros par an.
Mais les tout petits candidats là, qui n'ont pas de grand parti derrière eux, qui ont peu d'espoir de dépasser les 5%, ils font comment?
Eh bien c'est prévu, pour qu'ils puissent participer, il y a une règle.
Vous avez quand même le droit à un remboursement, c'est 800 000 euros. Donc dès le moment où vous avez 500 signatures, vous savez que vous pouvez mettre 800 000 euros sur la table pour faire une campagne, mais qui évidemment ne sera pas une campagne de grand style.
Donc même si vous n'atteignez pas les 5%, bah, vous serez remboursé par l'État jusqu'à 800 000 euros. C'est ce qu'on appelle le prix de la démocratie.
C'est le prix de la démocratie. Ouais, ouais. Voilà, vous savez tous si vous avez envie de vous lancer à votre tour, même s'ils sont déjà nombreux dans la campagne présidentielle.
Il faut avoir les 500 signatures quand même.
Oui, oui, ça c'est un début.
RTL. Sous les radars.
Tous les soirs, dans Défait le Monde, une info que personne n'a remarqué.
Et surtout une info qui va vous faire rêver, parce que chez Lego, bah c'est déjà Noël, Céline.
Oui, imaginez 3 jours de congés supplémentaires et une prime exceptionnelle. Ouh, ça vous fait envie?
Oui.
Eh bien, chez Lego, c'est la vraie vie. Oui, le fabricant de jouets le plus grand fabricant de jouets du monde va bien, très bien, même en croire The Guardian. Il signe un début d'année exceptionnel, un bénéfice net de 847 millions d'euros au premier semestre 2021. C'est une hausse de 140% quand même par rapport à l'an dernier. Alors, pour fêter ça, eh bien, le groupe a décidé de récompenser ses quelques 20 000 employés à travers le monde. Lego fait partie de ces entreprises qui ont bénéficié largement des confinements successifs, notamment en Chine, où le fabricant danois a d'ailleurs ouvert une quarantaine de boutiques depuis le début de l'année.
Très bien, merci.
Parce que
Céline,
quand on est confiné,
on fait des Lego.
On empile les briques.
Fatalement, on empile les briques, c'est bien dit. Vous préparez votre CV pour Lego, cher Cyprien?
Je prépare mes vacances surtout.
Une petite pause et on continue de défaire le monde de RTL Soir. Première info pour Brio Dîner. Juste après ça, on va aller dîner en Belgique. Tiens, tout de suite sur RTL.
Même si vous tenez... Oula, je vais y arriver.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48, on continue de défaire le monde dans RTL Soir et on vous glisse, on vous livre comme ça, c'est cadeau, des infos pour briller au dîner.
Et alors si je vous dis le grand Jojo, ça n'évoque peut-être rien, mais si je vous fais écouter ça...
Chef, un petit verre, on a soif.
Ça vous connaissez ça?
Ah oui.
Bah oui, le grand Jojo, immense star en Belgique notamment.
Dans les Hauts-de-France aussi.
Dans les Hauts-de-France aussi, effectivement. Ouais. Qui nous a quittés aujourd'hui, Laurent.
Oui, le grand Jojo, son éternelle moustache, son air jovial, le roi de l'ambiance pour faire la fête, un amoureux de la Belgique, passionné de football, grand supporter de l'équipe nationale Les Diables Rouges, mais aussi un grand fan du club de Lille. Le grand Jojo a même chanté un hymne du LOSC en 1987. Ah ouais. Allez Lille.
J'étais dans les tribunes avec un bonnet rouge et blanc. Je criais, je chantais dans ma petite voiture d'enfant. Avec les supporters de l'Est.
Bon, toi, quand même, vous avouez que j'ai découvert l'existence du grand Jojo ce matin.
C'est pas votre génération.
Non,
c'est pas votre région.
C'est
non
pas
plus.
Ma région non plus. Vous connaissez autour de la table, vous?
Je connaissais pas le grand Jojo, mais la première chanson, je l'avais déjà entendue.
Voilà. Aussi. Mais je ne savais pas.
Mais sans en connaître l'auteur.
Oui, exactement. Tout comme Céline.
Allez.
Il est à fond,
Laurent. Il est fan du LOSC désormais. Voilà, c'est la première info pour briller au dîner. Elle sera très utile ce soir, notamment dans les dîners du nord du pays.
RTL. Céline en immersion.
Vous commencez à en avoir l'habitude, vous adorez vous aussi ce jingle régulièrement. Céline chausse ses baskets de reporter pour défaire le monde sur le terrain.
Oui, et vous l'avez remarqué, semaine après semaine, sondage après sondage, Emmanuel Macron garde un socle important et surtout très stable, hein, autour de 25% d'intention de vote. Céline est donc partie s'immerger dans cette partie, cette petite majorité silencieuse.
Oui, et pour ça, je suis allée à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, une ville qui avait placé Emmanuel Macron largement en tête au premier tour en 2017 avec 34% des voix. C'était 10 points de plus que la moyenne nationale. J'ai donc voulu sonder ces habitants non encartés qui ne courent pas les meetings. Et à la sortie de leur cours de gym, eh bien, j'ai croisé Jacqueline, Hélène et Pierrette, trois septuagénaires pimpantes. Elles sont de sensibilités différentes, une syndicaliste de gauche, une électrice de droite. Mais au printemps prochain, toutes voteront Macron. Selon elles, pas vraiment le choix.
Il y en a qu'un qui sort du lot. Pour moi, il n'y a pas de personnalité, pas même à droite. Il n'y en a aucun qui, pour moi, fait le poids. Et on les connaît. Malheureusement, c'est dommage, on n'a qu'un candidat. Enfin, et pourtant, ce n'est pas du tout ma sensibilité. Enfin, disons que Macron, il n'est ni à droite ni à gauche. Hein, puisque...
bon, enfin, il est quand même, c'est vrai, un peu à droite. Non,
oui, mais, voilà, mais
d'un autre côté, il a des idées quand même à gauche, certaines.
Oui. Mmh.
Et donc, elles sont, elles, plus résignées qu'enthousiasmées et elles ne sont pas les seules.
C'est compliqué, le début de campagne.
Quand on regarde autour ce qui se passe, à gauche, c'est compliqué, à droite, c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
Ça va être un vote par élimination, je pense, plus que par un candidat qui émerge parmi les autres.
Et à l'heure des éliminations, donc, ce n'est pas sur le programme d'un président pas encore officiellement candidat que ses électeurs se fient. Non, c'est plutôt une sorte de remerciement pour service rendu.
Quand on voit l'enchaînement chronologique, il y a eu des gilets jaunes, puis le Covid.
La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la gestion de la crise Covid. On entend souvent des détracteurs, mais j'aurais bien voulu voir d'autres personnes à la place du gouvernement actuel, voir comment ils auraient géré les choses.
Lui, il a fait ses preuves.
Finalement, il s'est débrouillé pas si mal, si vous voulez.
Il a géré... C'est quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, ça a été dur, mais il l'a fait.
Des aides dont a bénéficié Bernard, il est restaurateur, toujours en activité à 73 ans. Alors pour lui non plus, aucune hésitation.
Moi de toute façon je suis pour Macron pour l'instant, hein, sincèrement.
Pourquoi?
Parce que bon, il y a pire par rapport à ce qu'on a vécu nous dans la restauration. Les aides qu'on a eues, les trucs qu'on a eus, donc rien que pour ça je voterai pour lui quoi.
La prime à l'expérience qui, dans ce bastion des Hauts-de-Seine, en pleine cinquième vague, pourrait bien continuer à bénéficier au chef de l'État.
Céline. Céline en immersion.
Céline en immersion avec donc les électeurs macronistes qu'on entend peu, c'est vrai, il faut bien le dire. C'était intéressant d'aller les voir du côté de Suresnes, donc à côté de Paris. Merci beaucoup Céline. Une petite pause. On continue de défaire le monde juste après ce petit répit. Ensuite, une nouvelle info pour briller au dîner. On va pousser les portes du Panthéon. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h54, on défait toujours le monde dans RTL Soir et on vous donne une nouvelle info pour briller au dîner.
Hier, on vous a beaucoup parlé de ce cénotaphe, ce cercueil sans corps de Joséphine Baker qui est entré au Panthéon. Mais Céline, vous vous êtes demandé qui avait vraiment son corps au Panthéon.
Oui, et pour être très franche, eh bien, c'est très difficile de savoir ce que contiennent tous les cercueils. Alors, pour ce qui est des cénotaphes, d'abord, Joséphine Baker n'est pas la seule. Hein, c'était aussi le cas récemment pour les résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonios, par exemple. Mais Pierre et Marie Curie, eux, sont bien là, dans des cercueils d'ailleurs enveloppés de plusieurs feuilles de plomb, car leur corps avait été exposé au rayonnement radioactif. Et puis il y a ceux qui n'ont qu'une partie de leur corps au Panthéon. Pour Gambetta, c'est le cœur. Quant à Louis Braille, vous savez, l'inventeur de l'écriture pour les aveugles, eh bien il est inhumé sans ses mains.
Ah bon ?
Ses mains, elles, sont restées dans le caveau familial de Seine-et-Marne.
Ah, ça, c'est une info dans l'info pour briller. C'est génial, extra, ça. Hein. Super info. Donc j'ai le choix entre le Panthéon et le Grand Jojo, quoi.
Ouais.
On est quand même sur deux salles, deux ambiances, là.
Non, il y a une certaine cohérence, c'est que des gens morts.
Oh. Match nul.
Merci Céline.
Match nul, je donne un point à Laurent. Un point à Céline.
Le grand
tout le monde est content.
Mais si vous entrez au Panthéon, on fera ça sur la musique du Grand Jojo.
Au Panthéon,
ça serait pas mal.
Vendu, promis.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs, c'est le chouette coup de fil et vous nous racontez vos bonnes idées.
Vous cherchez une solution anti-gaspi, solidaire et pas chère. Eh bien, maire de Mayenne l'a trouvé pour nous, Laurent.
Oui, fini de cuisiner pour la poubelle à Congrillé. Les habitants peuvent maintenant préparer leur repas avec les restes de la cantine scolaire. Bonsoir, Hervé Tison.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de la commune. Alors, comment ça marche? On vient récupérer tout simplement notre tupperware?
Oui, c'est-à-dire que la responsable de la cantine met dans des contenants en verre, sont même des contenants réutilisables, tout ce qui ne va pas sur les tables des enfants à la cantine. Il y a un transfert dans des boîtes isothermes vers l'unique commerce du village qui revend à un prix symbolique de 2 euros les deux parts, les plats qui ne sont pas mis sur les tables de la cantine.
Combien de repas ça fait chaque jour qui se retrouvent donc dans le commerce de votre commune ?
Alors, on avait quantifié à un moment le fait qu'on pouvait jeter en fonction des menus entre 20 et 50%. 20 et 50% du poids de ce qui était amené ou ce qui était fabriqué par le chef de la cantine. Et donc ça fait grosso modo entre 2, 3 en fonction des jours et une dizaine de petits contenants pour deux personnes qui sont disponibles à la vente le soir.
Et alors comment vous avez eu cette idée ?
Alors nous, on est une petite commune et on essaie de gérer, comme on dit, en bon père de famille. L'idée, c'est ce qu'on fait à la maison, bah, pourquoi on le reproduit pas en structure collective. Et moi, quand mon épouse fait à déjeuner ou à dîner, qu'il y a des restes en fin du repas, elle le met dans des contenants plastiques, ça va au frigo et c'est ressorti le soir ou le lendemain. Et là, on fait la même chose parce qu'on s'était aperçu que, en fin de compte, les repas à la cantine, ils sont très qualitatifs. Hein. On est en fonctionnement en liaison chaude, mais qu'on nourrissait très bien nos enfants, mais également fortement le composteur.
Et du coup, les habitants ont pris l'habitude d'aller chercher, avant de rentrer à la maison le soir, leur repas issu de la cantine.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le responsable de notre commerce, il envoie sur les réseaux sociaux le fait qu'aujourd'hui, il a 3 contenants, il en a 4, et c'est tel menu. Et après, les gens lui répondent ou viennent chercher directement ou lui disent bah, « tu m'en bloques un, tu m'en bloques deux ». Ça permet à des gens qui, quelquefois, sont tout seuls, ne se font pas forcément très bien à manger le soir, ou parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne prennent pas le temps, surtout, de pouvoir avoir accès à ces produits très qualitatifs. Quoi.
Et est-ce que les habitants ont les mêmes goûts que les enfants ? Est-ce que c'est les mêmes menus qui sont beaucoup demandés ?
Alors, les enfants sont un peu plus... Il y a certains menus hein, qui sont où on a un peu plus de reste. On a une fois par semaine des menus végétariens. Et ceux-là sont un tout petit peu moins... Enfin, il y a plus de reste quand ce type de menu-là. Et par contre, c'est très apprécié par les adultes. Ouais. Ou beaucoup plus apprécié par les adultes, ça. Toujours.
Eh bien, voilà une solution pour réduire le gaspillage alimentaire. Partager les restes de la cantine scolaire. Merci, monsieur le maire. Bonne soirée à vous.
Voilà. Merci, au revoir.
Merci, monsieur le maire. J'adore qu'on dise ça. Merci, Hervé.
Toujours.
Du côté de Congrier, en Mayenne. Merci à vous, les amis, dont défait le monde. On se retrouve demain, oui. 18h40, pour de nouvelles aventures. De
à
nouveaux
demain.
Épisodes dans RTL Soir. Dans un instant, ce sera le.
À demain,
Céline.
Je crois qu'on a
toujours
compris, Céline.
Temps,
à
Céline.
Demain.
Vous pouvez rester, Céline, si vous voulez. Vous êtes très bien dans ce studio, je vois ça. Dans un instant, ce sera le journal de Sébastien Rouxel pour 19h, puisqu'on approche de 19h. Il est 18h59 et 34 secondes.